Virage Marseille avec OCO, une filtration fiable pour votre eau.
Sur tous les terrains de la vie, soyez protégés. Virage Marseille avec Mutuelle du Soleil. Santé, prévoyance, auto, habitation.
Aujourd'hui, on ne peut pas rien dire de la mentalité. Et simplement, le foot, c'est comme ça. Et...
Attention ! La tête ! La tête ! De Pierre Boulanger ! Le jeu stéréotypé dans la pique de Marseille a porté ses fruits. Le centre qui vient de la droite et qui va trouver la tête de Pierre Boulanger. On secoue son maillot.
On se punit nous-mêmes avec ce pénalty. Et donc c'est très difficile à accepter sur les scénarios du match.
Face à son ancien coéquipier, c'est parti, Eliwahi, la grande prise d'élan, la panenka d'Eliwahi.
C'est vrai que je sens un truc, je sens quelque chose, un contact peut-être au niveau du pied.
Difficile pour moi de vivre ce qu'on vit en ce moment, parce que j'ai l'impression de ne pas pouvoir amener l'Olympique de Marseille là où il doit être. Mais...
C'est une saison qui ne ressemblera donc à aucune autre. L'Olympique de Marseille n'y arrivera pas après ce match nul, cette nouvelle désillusion face à l'OGC Nice ce dimanche soir lors d'une soirée de gala à l'Orange Vélodrome. Marseille donc n'avance plus. On va en parler dans Virage Marseille avec Fabien Laurenti. Bonsoir Fabien.
Salut.
Ça va ? Malgré toutes ces défaites, toutes ces désillusions.
C'est un peu compliqué encore une nouvelle fois. Mais malheureusement, on en prend l'habitude, j'ai l'impression.
On commence à en prendre l'habitude, même si pour moi, la pilule ne passe toujours pas. Johan Odé, en face de toi, comment ça va, Johan ?
Ouais, les lundis se suivent et se ressemblent vivement la fin de saison.
Plus que trois matchs, plus que trois matchs pour les Marseillais et espérer accrocher une place européenne. On verra, ce sera la Ligue des Champions peut-être, l'Europa League sûrement, la Ligue Europa Conférence peut probablement, en tout cas si les scores, si les classements restent là, ça peut se diriger vers cette Ligue Europa Conférence. On va regarder tout de suite, messieurs, le classement de cette Ligue 1 parce que c'est la principale information de ce soir avant de rentrer dans le détail du match. L'OM est donc à la fin de cette 31e journée de Ligue 1, 6e à 3 points de Rennes, 5e et à 4 points de Lyon et Lille, 3 et 4e respectivement. Fabien, ça commence à se compliquer quand même pour cette qualification Ligue des Champions. Là.
Ouais, clairement, je pense que les Marseillais ont grillé leur dernier joker. Effectivement, quand on voit un petit peu les points qui séparent Lyon et Lille, ça fait 4 points, il reste 3 matchs. Il faudrait 2 faux pas de la part de ces équipes sur les 3 derniers matchs. Donc ça paraît quand même assez compliqué. Après, en football, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais moi, ce n'est pas tant le faux pas de ces équipes-là qui m'inquiète. C'est surtout l'OM. Est-ce qu'ils seront capables de remporter ces 3 derniers matchs? Quand on voit encore la prestation d'hier, on peut se poser des questions. Donc, ça, pour la Ligue des Champions, ça se complique énormément. Après, on va attendre de voir la suite pour savoir dans quelle Coupe d'Europe, espérons-le, les Marseillais iront la saison prochaine.
Parce que c'est vrai, quand on regarde ce programme voilà, qui s'amincit de semaine en semaine, on s'était dit, voilà, l'OM a un calendrier facile, l'OM va affronter des équipes qui n'ont soit plus rien à jouer, soit sont dans la zone rouge, ont vécu des saisons très compliquées. Bon, il y a eu Metz, ça s'est plutôt bien passé. Lorient, la semaine dernière, catastrophe. Cette semaine, on a eu Nice. Ah, match nul. Il reste plus que Nantes, Le Havre et une finale potentielle face à Rennes la semaine pro dans 3 semaines. Johan, ça commence à se compliquer. Fabien le disait, c'est même pire. J'ai l'impression, on s'attend peut-être qu'à l'OM dégringole et ne joue rien finalement la saison prochaine au niveau européen.
Bah, on avait tous vu ce calendrier en se disant c'est accessible, mais en fait le plus grand adversaire de l'OM c'est l'OM. Nous-mêmes, on a réussi à se mettre dans le dur, à avoir une énième crise. Et c'est une possibilité qu'il faut absolument étudier maintenant. C'est que l'OM, en effet, ne joue rien ou joue une Coupe d'Europe qui sera beaucoup moins intéressante que la Ligue des Champions, beaucoup moins intéressante financièrement, mais en fait qui correspond beaucoup plus à la qualité de ce club, à l'ADN et à notre place en Europe. Donc qui permettra peut-être, si on se qualifie, au moins d'aller un petit peu plus loin que de se faire humilier contre une équipe belge au dernier match d'une phase aller de Ligue des Champions. Voilà, c'est terrible pour les finances de l'OM ce qui est en train de se passer. C'est vraiment terrible parce que c'est pas ce qui avait été prévu. Et c'est pas ce que l'OM aurait dû espérer en fonction des investissements conséquents qui ont été faits en début de saison et encore même au mercato d'hiver. Donc là, la saison de l'OM, elle tire au fiasco total vu
après,
les investissements.
Il reste 4 points entre la 3e et la 6e
L'OM ne
place.
Devrait pas se faire peur comme ça. Alors oui, il y a énormément de confrontations directes. Elle était intéressante, l'infographie qui est passée juste derrière nous. C'est de voir voilà, ces confrontations avec Lyon qui a Rennes, Toulouse, Lens. Ce n'est pas des matchs faciles. Rennes qui a Lyon, Paris, Marseille. Ce n'est pas des matchs faciles non plus. Donc, avec ces confrontations directes, c'est sûr qu'il y aura des points qui vont être lâchés. Mais pour espérer, ça veut dire qu'il faut que l'OM, dans un deuxième temps, fasse 9 sur 9. Qui, autour de cette table, voit l'OM faire 9 sur 9 sur les 3 derniers matchs? Pas moi, en tout cas.
Moi, j'espère, mais je pense que je ne suis pas impartial sur ce coup-là. Messieurs, donc on a vu cette conséquence au classement. On va s'intéresser maintenant à ce match. Dans le jeu, on a vu quelque chose de différent, mais c'était obligé. La réaction était obligatoire que par rapport à Lorient, Fabien. Mais bon, c'est encore insuffisant. Est-ce que toi, quand même, tu serais un petit peu encouragé par ce que tu as vu sur le terrain de la part des joueurs?
Ça reste encore insuffisant, c'est encore trop peu. Quand on reçoit une équipe de Nice qui, certes, s'est qualifiée après un petit bol d'air en Coupe de France pour la finale, mais je veux dire, c'est une équipe qui est quand même à la 15e place du championnat, qui a la ramasse, et on n'arrive pas encore à renverser cette équipe. Donc on a vu du mieux dans l'état d'esprit, on a vu du mieux dans les intentions. Mais l'état d'esprit, les intentions, c'est bien beau, mais après, à un certain moment, il faut jouer aussi. Et en termes de jeu, on a vu encore beaucoup, beaucoup de déchets dans les zones de vérité, donc... non, c'est encore beau, c'est encore trop peu, c'est encore trop peu. Alors oui, il y avait des blessés, il y avait des absents, mais voilà, à un certain moment, c'est pas grave. Quand on a la chance d'ouvrir le score, on doit, quoi qu'il en soit, maintenir ce résultat. Et on a vu encore cette équipe se liquéfier littéralement après avoir ouvert le score encore une fois. C'est-à-dire qu'on a l'impression que chaque fois que l'Olympique de Marseille rentre dans les 10 dernières minutes, ben c'est fini, c'est la panique à bord, on recule et puis on fait n'importe quoi. Donc,
et même juste avant ça. Après l'ouverture du score d'Højbjerg, il y a deux actions énormes des Niçois, mais qui sont vraiment terribles. Il y a un face-à-face avec Geronimo Rulli, un deuxième avec un hors-jeu qui est signalé sur Eli Way, mais c'est incroyable. Ouais. Justement, c'est l'école de football, ça. Les cinq minutes après un but qu'on a marqué, on serre les rangs, on dégage les ballons en tribune et juste on s'impose. Quoi.
Ouais, et puis surtout, on garde le bloc haut. On profite de ce but-là, de cet élan pour justement rester haut, ne pas reculer. Parce qu'on sait pertinemment que si on recule, on va se mettre aussi en difficulté. Donc, moi, c'est, je pense qu'il y a un vrai, vrai souci mental. Mmh. Cette équipe est vraiment malade parce que hier encore, Nice, ils ont été quoi? Ils ont combien d'occasions dans le match?
Ils ont 2-3 dangereuses, vraiment.
On les a pas vues, sincèrement. En première mi-temps, on les a pas vues. Il y a 70% à peu près de possession pour l'OM. Donc, il y aura un certain moment, il faut m'expliquer comment, encore une fois, l'Olympique de Marseille n'arrive pas à remporter ce match. Donc, je rejoins Yohan quand il dit que sur les 3 derniers matchs, on va prendre les 9 points. Je l'espère, mais bon, je suis pas très convaincu.
On va écouter justement Geronimo Rulli et Habib Bey après la rencontre. Pour eux aussi, c'est dur et ils la voient très difficile cette fin de saison. Écoutez.
Oui, aujourd'hui, on ne peut pas rien dire de la mentalité. Et simplement, le foot, c'est comme ça. Et oui, et cette saison, c'est en train d'être très, très, très compliqué pour nous, très dur. Mais il faut continuer jusqu'au final, jusqu'au bout, comme on dit l'Olympique de Marseille. Et oui.
Ne pas se résigner, il y a 9 points à prendre, ça s'éloigne. Oui, aujourd'hui, on n'a pas notre destin en main, on le sait. Mais la réalité en football, c'est que tant que rien n'est perdu, on peut pas baisser la tête et se résigner. Ça va être dur, ça c'est sûr. En ce moment, la dynamique n'est pas bonne, c'est très très clair. Mais il faut continuer à travailler pour...
Il faut continuer à travailler pour Habib Bey et ses joueurs d'ici la fin de saison. Il reste donc 3 matchs avant le terme de ce championnat. J'aimerais qu'on revoie cette composition d'équipe de départ qui a posé beaucoup de questions, notamment dans notre avant-match sur BFM Marseille-Provence, BFM Toulon et BFM DC, avec donc ce 3-1-3-1 que décrivait Habib Bey, 4-3-3 dans certaines phases,
et justement,
qui a posé question.
On a la chance d'avoir Fabien en plateau. Fabien, toi, tu étais au stade, parce que nous, on a commenté ici avec les images du diffuseur. On n'a pas la vision globale. Toi, tu as vu un schéma de jeu défini ou pas depuis les tribunes?
Non, sincèrement, hier, plus particulièrement hier, j'ai rien compris au schéma tactique mis en place. Ça a permuté énormément. On a vu des Aubameyang décrocher très très bas dans le milieu de terrain. On a vu Vermeeren changer de côté. On a vu Ntibeur jouer avant-centre. On a vu. Enfin, ça a été un peu le foutoir. Et sincèrement, on ne s'y retrouve pas. Donc, c'est, pour moi, ce n'était pas assez clair. Mis à part les pistons, que ce soit Emerson et Weah, où là, on a vu clairement que c'était, voilà, entre guillemets, là, ce que recherchait l'OM. Mais après, en dehors de ça, sincèrement, ce n'était pas clair du tout, quoi. Donc. Je pense que dans ces moments-là, il faudrait vraiment reprendre un petit peu les bases, pas se perdre là-dedans, et après, voilà, essayer comme l'avait fait Jean-Louis Gasset à l'époque. Rappelez-vous, quand Jean-Louis était arrivé, il avait reposé ses bases, un 4-4-2, et puis voilà, il avait réussi à gagner 5 ou 6 matchs de suite, je crois. Donc là, je pense qu'on se perd un petit peu. On se perd un petit peu, et malheureusement, ça ne sourit pas à l'OM.
C'est un de vos faiblesses, finalement, d'Abi Bey, de ne plus réussir à rien maîtriser, que ce soit dans ses compositions, ses changements aussi, qui n'ont pas du tout été à la hauteur. On en parlera en deuxième partie. Mais en tout cas, sur ses choix de départ, Abi Bey, là, on sent qu'il a perdu pied complètement à l'Olympique de Marseille.
Non, on ne peut pas lui reprocher de ne pas tenter, ça, c'est sûr. Mais
oui, mais tenter pour tenter n'importe quoi, c'est
pour ça. Moi, je suis 100% d'accord avec Fabien, qui, en plus, a eu l'expérience. Toi qui t'es battu par moment contre la relégation, alors là c'est pas du tout ce que fait l'OM, mais c'est un contexte de crise où justement des fois t'as juste besoin de reprendre confiance dans tes qualités footballistiques en faisant des schémas qui sont faciles à comprendre, faciles à maîtriser, où chacun respecte ses places. Et ce que tu dis, c'est criant. Enfin, Aubameyang, on sait déjà que l'OM ne touche plus qu'à net, comme on dit ici, en attaque. On n'arrive pas à toucher un attaquant dans la surface. Si Aubameyang descend trop, déjà, enfin, comment on va s'en sortir? Il n'y avait personne à la retombée des centres. Pareil, Fabien, tu me parles d'Emerson et de Weah, où en effet, il y avait ces deux pistons qui étaient tout à fait cohérents, à qui on a demandé de jouer très haut pour aller centrer. Mais s'il n'y a personne dans la surface, en fait, ça n'a ni queue ni tête. Et ce côté Timber, qui a été une excellente recrue, peut-être la meilleure recrue du mercato d'hiver, et peut-être la seule bonne recrue du mercato d'hiver, d'ailleurs, on peut y aller. Le mettre à un poste qui n'est pas le sien, et en plus, chance pour nous, c'est qu'il n'a pas démérité, dans cette position-là, parce qu'il a un volume de jeu et une qualité technique qui est tellement importante. Mais préservons notre milieu de terrain, c'était bien de densifier, mais inventer tout le temps, enfin là, dans des joueurs qui sont perdus, c'est vrai que c'est se tirer une balle dans le pied complètement.
Allez messieurs, on arrive à la fin de cette première partie de Virage Marseille consacrée à ce débrief de OM-OGC Nice. Dans la seconde partie, on se posera cette question tout simplement, est-ce que le vestiaire est en train d'exploser en vol? On en parle dans un instant, à tout de suite.
Virage Marseille avec Oco, une filtration fiable pour votre eau.
Sur tous les terrains de la vie, soyez protégés. Virage Marseille avec Mutuelle du Soleil. Santé, prévoyance, auto, habitation.
On est de retour sur le plateau de Virage Marseille, toujours avec Fabien, toujours avec Johan. On va s'intéresser au mental de ces joueurs, à la cohésion d'équipe. Et on se pose cette question à présent, messieurs, si vous le voulez bien. Le vestiaire est-il en train d'exploser? Regardez cette déclaration de Pierre-Emile Højbjerg tout de suite après le coup de sifflet final de cette rencontre contre l'OGC Nice. On doit arrêter de parler la semaine, mais je dois faire attention à ce que je dis. On doit gagner ce match. On doit arrêter les choses. Et il est parti tout colère derrière Pierre-Emile Højbjerg. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité de l'Olympique de Marseille la semaine dernière, il fait évidemment référence, Johan, à cette déclaration de Facundo Medina chez RMC notamment et chez le diffuseur Ligue 1+. Facundo Medina qui a pointé du doigt très clairement ses coéquipiers. Là, Pierre-Emile Højbjerg, voilà, il remet un petit peu de l'ordre dans tout ça. Et aussi, voilà, il dit à Facundo Medina, peut-être que tu n'aurais pas dû prendre la parole.
Ouais, je crois que même c'est vraiment l'interview d'RMC, hein, parce que c'est là où Medina pointe du doigt en disant voilà, on a des champions d'Europe, on a des champions du monde, et au final, sur le terrain, il faut assumer maintenant. Je pense que c'est ça qui n'est pas passé. Et ce qui est compliqué, c'est de se dire que voilà, comment Benjamin Pavard et comment Emerson Palmieri, qui étaient les deux personnes visées notamment par Facundo Medina, ils ont réagi après cette déclaration. Et après, comment Medina maintenant va réagir après la déclaration de Pierre-Emile Højbjerg? En fait, oui, là, on parlait d'aller à la guerre, selon les dires de Facundo Medina, avec 5-6 joueurs. Là, je vois même pas un groupe de 5-6 qui soit soudé, lié. Et c'est ça qui va être super dur, parce que on le sait que les déclarations des dirigeants, elles n'ont pas toujours été bien acceptées par le vestiaire. Donc déjà, s'il y a du froid entre les dirigeants et le vestiaire, et maintenant même des clans qui se créent dans le vestiaire. Non, mais c'est compliqué. Cette saison, c'est un peu une année sans fin pour l'OM, une année où il faut juste terminer et essayer de sauver ce qui est sauvable. Mais est-ce que tu peux avoir des résultats dans des derniers matchs quand tu n'as pas de cohésion d'équipe? Enfin, je ne sais pas, Fabien, si tu as connu compliqué. Ça, mais... En fait, quand tu vas mal, si tu n'es pas soudé, si tout le monde ne se bat pas les uns pour les autres, tu as forcément un moment où il y a une banane. Oui,
y a rien de pire de régler ses affaires comme ça dans la presse. Il vaut mieux se dire les choses entre joueurs, chose qu'on faisait nous à l'époque. C'est vrai que c'était pas autant peut-être médiatisé, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Donc c'est vrai qu'on avait peut-être un peu plus de facilité à le faire, mais ce n'est pas bon signe quand ça sort comme ça dans la presse, que ça se répond par... médias comme ça interposés, c'est pas bon. Et surtout, effectivement, la cohésion, on la sent plus. On sent plus des joueurs qui sont capables de se battre les uns pour les autres. Et dans ce timing-là, c'est pas bon. Donc, ouais, ça sent mauvais, malheureusement.
Mais comment tu revigores un vestiaire? Comment tu les secoues? Sur quoi tu t'appuies maintenant quand tu es à Big Bay? Que tu vois cette situation-là dans ton vestiaire, que tu vois qu'il reste trois matchs et que tu te dis, bah, toi, t'as été choisi par la direction du club pour deux objectifs. Le premier, la Coupe de France, il est fini. Et être qualifié en Ligue des Champions, c'est ultra mal parti. C'est quoi tes arguments pour faire en sorte de repartir vers l'avant?
Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que est-ce que Habib Bey est vraiment crédible aux yeux de ses joueurs? Peut-être pas, parce qu'effectivement, il y avait des objectifs qui avaient été établis. La Coupe de France, ça a été un fiasco, encore une fois. En championnat, c'est très, très compliqué. Donc, est-ce que Habib Bey n'a pas déjà perdu son vestiaire depuis quelques matchs? C'est aussi, une grande possibilité. Donc, malheureusement, là, les leviers activés, il n'y en a plus trop. À part le mental, essayer de les booster sur les trois derniers matchs, leur faire comprendre qu'il y a encore peut-être quelque chose qui peut être sauvé. Mais je ne suis pas certain que les joueurs y croient aussi. Donc, ouais, c'est très, très compliqué.
Et Habib Bey qui a aussi pointé du doigt ses joueurs hier soir après la rencontre. On va l'écouter, justement, le technicien marseillais. Il nous parle de ses entrants qui, pour lui, n'ont pas eu la bonne attitude. Et on en parle juste après. Il vise quelqu'un en particulier.
C'est pas normal de perdre ce ballon-là, cette intensité-là, avec cet état d'esprit-là. On a pointé, justement, l'état d'esprit après Lorient. Je trouve que ce soir, dans l'état d'esprit, on était irréprochables. Et que... quand vous êtes un pack player, ça vous demande de rentrer dans la même volonté que ceux qui sont sur le terrain depuis maintenant 75 minutes. Et j'accepterai pas. Et je l'ai dit, pour moi, c'est pas suffisant. Pour certains, on peut toujours revendiquer. Mais quand vous rentrez dans un match comme celui-ci, il faut rentrer au niveau du match. Il faut rentrer sur l'importance du match. Et ça n'a pas été notre cas, je trouve, sur la fin de match.
Bon, Habib Bey qui évoque plutôt, j'allais dire explicitement, même s'il ne le nomme pas, Ayman Abdelli qui perd le ballon sur cette récupération niçoise et qui derrière emmène ce pénalty malheureux pour les Marseillais. Là aussi, on est en train de viser les joueurs, on comprend tous de qui parle Habib Bey. On parlait de levier, c'est peut-être pas le bon levier pour cette fin de saison, Fabien.
Non, aussi, c'est sûr. Alors, je pense qu'il est énervé et qu'il a envie de sortir ou peut-être de piquer un peu les joueurs. Mais est-ce que c'est la bonne manière? Je suis pas certain. Après, je suis convaincu que Habib a dit ce qu'il avait à dire aussi à ses joueurs. Mais le sortir comme ça dans la presse, je suis pas convaincu que ça va aider Abdelli aussi. Mais non, il y a vraiment tous les voyants qui sont rouges, hein, sincèrement, que ce soit en termes de com, d'attitude et d'état d'esprit.
Et à même tous les hier, étages en plus.
Mieux. À tous les étages, c'est ça aussi qui est grave. C'est-à-dire que on a eu la sortie de Benatia il y a quelques semaines, bien la semaine dernière. On a un nouveau président qu'on n'entend pas. Bon, voilà, il y a tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas fou, quoi.
C'est pas fou, surtout qu'il y a des joueurs qui vont partir à la fin de la saison, et ça on le répète depuis plusieurs semaines maintenant, des joueurs qui sont un peu moins concernés, et je pense à Mason Greenwood qui, selon plusieurs médias aussi, aurait payé un manque d'investissement ces derniers jours à l'entraînement, qui aurait entraîné...
Alors c'est pas ce qu'a dit Habib Bey,
officiellement c'est il était amoindri, voilà. On n'a pas voulu
et
prendre
tous
de
les jours on a communiqué, tous les jours il essayait de revenir, et en fait même le jour du match il a dit non mais en fait je suis pas en état de jouer. C'est le discours officiel.
Le discours officiel, c'est ça, le discours officieux, c'est que voilà, il paye un petit peu son manque d'investissement. Si même ta star elle te lâche dans ces cas-là, c'est vrai que c'est mal parti pour cette fin de saison.
Non, mais bien sûr. Et puis, j'étais en train de réfléchir juste à Imad Abdelli, qui a signé 5 ans, je crois, à l'Olympique de Marseille. Vu le niveau qu'il propose sur cette deuxième partie de saison, qui est, lui, sa première partie avec l'OM, c'est quand même catastrophique. Je pense qu'on n'est pas loin, alors même s'il n'a rien coûté, mais d'un joueur qui n'a absolument pas le niveau de l'OM. C'est assez incroyable de voir ce qu'il propose, avec notamment une statistique qui est que Abdelli n'a donc pris que 3 points avec l'OM, 3 défaites, 3 matchs nuls. Enfin, c'est dire aussi la mauvaise
9
passe.
9 buts encaissés, hein, mauvaise en 6 matchs
de,
quand il est
de
là.
L'OM, mais quand même, il y a peut-être un peu le côté chat noir, comme Pierre-Emerick Aubameyang. J'étais en train de réfléchir dans la nuit, parce que je n'arrivais pas à dormir, pour tout vous dire. Pierre-Emerick Aubameyang, qui était là pour sa première saison à l'OM, en ayant connu 4 entraîneurs, et finir avec Jean-Louis Gasset. Il a raté la bonne saison avec De Zerbi et il revient pour une saison qui est encore alors mouvementée, mais plus que jamais. Soit il reste au club et il est complètement maso, soit il va avoir envie de s'aérer un peu l'esprit, Pierre-Emerick Aubameyang.
Ouais, c'est compliqué. D'ailleurs, on l'annonçait aussi du côté de l'Espagne cet hiver, soi-disant, et que Pablo Longoria aurait mis son veto en disant qu'il était intransférable à Pierre-Emerick Aubameyang.
T'avais vendu Robinho Vaz.
Oui, c'est ça. Tu ne pouvais pas te retrouver avec un seul attaquant pour finir toute la saison. Au niveau de cette équipe, en fait, finalement, peut-être que le problème, Fabien, c'est qu'on n'a pas réussi à trouver de leader, tout simplement, dans cette équipe. On pensait que dans un premier temps, quand Facundo Medina prend la parole, il veut se détacher en étant ce leader de cette équipe. Mais finalement, ça a un effet inverse, puisqu'il tire vraiment à boulet rouge sur ses propres coéquipiers. Mais quand on voit le match d'hier, encore une fois, j'ai l'impression que, comme tu disais en première partie, on prend ce but et derrière, il n'y a pas de caractère. Personne ne se dit « je vais prendre nos responsabilités ». Et ça finit avec le score que l'on connaît, un partout à la fin.
Ouais, le problème qu'il y a avec ces déclarations, c'est qu'il faut soi-même être irréprochable. Et ce n'est pas son cas. Il n'y a aucun joueur aujourd'hui qui est vraiment irréprochable et qui a une attitude et un niveau de jeu où tu peux te dire ben bon, lui, il parle, on l'écoute parce que quand il est sur le terrain, c'est OK, quoi. Donc le problème, il est là. C'est que Medina, moi, je veux bien qu'il parle comme ça, mais si on fait un petit peu sa rétrospective depuis qu'il est arrivé à l'OM, c'est compliqué aussi pour lui. Donc c'est délicat. Et moi, je trouve que ce n'est pas la bonne solution. J'espère que, sincèrement, ils se sont dit les choses entre eux dans un vestiaire tranquillement, mais de sortir comme ça dans la presse, je vois pas l'intérêt.
Et donc, il a manqué des leaders cette saison. J'ai une dernière question, mais si on arrive à la fin de cette émission. Alors, Benassia a tiré sur les joueurs. Les joueurs se sont tirés entre eux. On a McCourt qui est venu vendredi à la Commanderie pour essayer de remobiliser un petit peu tout le monde. J'ai l'impression qu'on a fait le tour un petit peu de toutes les solutions pour essayer de remobiliser.
T'as fait
le stage à Marbella, t'as fait cette semaine la mise au vert ultra longue.
T'as fait entrer les minots parce que Habib Bey disait s'il y a des joueurs qui ne sont pas concernés par ce qui se passe, c'est pas grave, on jouera avec les minots. T'en as fait rentrer lors du dernier match. Quand même pas gagné.
Alors sur quoi on travaille cette semaine, messieurs? C'est ma dernière question. Sur quoi on travaille cette semaine du côté de la Commanderie? Il y a 6 jours pour préparer ce match face à Nantes.
Le mental, encore une fois, malheureusement, on parle que de ça, mais parce que je trouve que c'est la grosse faille de l'OM et de cette équipe. Il y a de la qualité, on ne peut pas me dire qu'il n'y a plus de qualité dans cette équipe, c'est qu'il y a quand même de bons joueurs. Ouais. Sauf que voilà, il manque vraiment cette confiance et ce mental qui faillit. Donc, Faut réellement que les joueurs prennent conscience qu'ils sont capables de faire les choses, qu'ils se lâchent tout simplement.
On les prend un par un, on leur dit « Allez, c'est bon, tu vas y arriver », ou après, on fait des réunions de groupe. Explique-nous un petit peu comment ça fonctionne dans des groupes comme ça.
Moi, à mon époque, c'était le coach qui prenait la parole. Maintenant, il y a des préparateurs mentaux, il y a beaucoup de choses qui font que les joueurs sont épaulés un petit peu plus. Mais après, c'est à eux de prendre conscience des choses, tout simplement. À un certain moment, pour arrêter de se cacher, ils ont voulu signer à l'OM. Après, c'est sûr que on assume, donc voilà, tout simplement. Mais bon, mis à part le mental, travailler quoi? On va travailler quoi? La tactique, un nouveau schéma de jeu, c'est trop tard, c'est fini. Donc, ou on reprend, comme je l'ai dit, des bases simples sur un 4-4-2 ou sur un 4-3-3, et puis on y va, puis voilà. Mais après, si on se mange la tête encore dans des schémas compliqués, ça risque d'être long, quoi.
Et cette semaine va être longue du côté de la Commanderie avant ce match capital face à Nantes la semaine prochaine. Enfin, la semaine, à la fin de la semaine, pardon. Les semaines sont longues, comme je le disais. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur le plateau de Virage Marseille. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je rappelle que cette émission est disponible en podcast si vous voulez nous réécouter à la maison. Merci à Robin Piette à la réalisation de cette émission. Vous restez bien sûr sur BFM Marseille, BFM Toulon et BFM d'ici. L'info revient dans un instant sur vos chaînes locales.
C'était Virage Marseille avec Coco, une filtration fiable pour votre eau.
Sur tous les terrains de la vie, soyez protégés. Virage Marseille avec Mutuelle du Soleil, santé, prévoyance, auto, habitation.